2-0, premier score, premier match. La Coupe du Monde de foot est lancée. Nous voilà des millions devant notre télé à écouter les commentaires d'un spectacle logiquement silencieux. Des mots pour dire des gestes, tentative de traduction du terrain et question quasi existentielle. Une bicyclette est-elle une papinade ? Pendant un mois, le foot va envahir les journées, les conversations, les esprits de tous et toutes, les yeux et les oreilles tournés vers ce minuscule état du désert qui organise cette année le mondial, le Qatar. Plus question de parler de corruption, d'aberration climatique ou de droits de l'homme, il s'agit dorénavant de décrypter les ciseaux, les dribbles, les passes et les buts pour nous aider. Un linguiste et un journaliste sportif, beau parleur comme tous ceux qui pendant plus d'une heure et demie sont capables de commenter un match. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Journaliste à France Football, vous êtes aussi consultant à Radio Foot International et vous avez laissé partir Annie à Doha quand vous êtes resté à Paris. C'est sans regret ?
J'aurais bien aimé quand même vivre la compétition sur place parce que les émotions, c'est toujours quelque chose de sympa. Et puis, c'est aussi une compétition où on croise des gens de partout avec toutes les langues et toutes les différences qui se réunissent autour du football. Alors, il y a des mauvais côtés. Effectivement, vous en avez parlé en introduction avec toutes les questions légitimes qu'on peut se poser sur les droits humains, sur l'écologie, sur le monde de demain. Mais le football ne doit pas seulement être un instrument pour des questions politiques, c'est aussi, comme la musique, quelque chose qui rassemble les gens.
Alors, je vous présente comme beau parleur, est-ce que vous êtes d'accord ? Parce qu'on a l'impression, ce pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on a l'impression toujours que les émissions de foot pourraient durer des heures et que vous êtes intarissables, vous les consultants.
On est surtout des passionnés. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je parlais d'émotion, c'est un mélange d'émotion et d'expertise, de connaissances. C'est une communauté de gens qui aiment le football, qui est extrêmement vaste et importante. Et c'est des codes communs qui font que, on n'arrête jamais. Moi, je dirais pas beau parleur, je dirais plutôt tchatcheur, mais pas du côté, pas de manière péjorative.
Mais il vous manque jamais un mot, vous avez jamais un blanc pour commenter une action.
Non, en règle générale, on peut toujours s'en sortir par une feinte.
Alors, 200 mots pour parler de foot, c'est le sous-titre d'un livre écrit par Michel Denisot avec le concours de Médéric Gasquet-Cyrus. Bonjour.
Bonjour à tous. Vous êtes avec un autre collègue, Arnaud Richard aussi.
Exactement.
Et Michel Denisot.
Vous n'êtes pas à Doha, mais à Aix-en-Provence, car vous êtes linguiste et vous enseignez à l'université d'Aix-Marseille. Est-ce que les cours en fac et les retransmissions de matchs peuvent cohabiter dans l'agenda d'un prof pendant une semaine ou un mois ?
Alors moi, étant donné que je suis sur un boycott, en tout cas perso, ça ne me gêne pas. Vous savez, moi j'attends le prochain match de l'OM le 28 décembre, donc d'ici là, moi j'aurai pas de foot. Par contre, effectivement, je suis l'actualité, évidemment, sur les réseaux et dans les médias.
Et donc, vous parlez foot avec vos étudiants
à l'université.
Pardon, vous parlez foot
Bien sûr.
Oui.
Oui, bien sûr, on peut parler de foot. Ils savent que de toute façon, le lundi, quand j'arrive avec la voix cassée, c'est que je reviens du vélodrome la veille, puisque je suis en virage aussi, au virage sud. Donc ils savent qu'on peut parler de ça, et on peut parler aussi d'aspects très intéressants, comme la tradition orale, les chants, l'expression du politique dans les stades. Donc bien sûr, on en parle.
En tout cas, dans ce livre écrit avec Michel Denisot, on l'a dit, et un autre linguiste, Arnaud Richard, En plein dans la lucarne, c'est le titre, vous dites que le foot remplit la fonction fatigue de la communication, ça, c'est un mot de linguiste. Hein.
Ouais, c'est un mot en fait simple, ça veut dire que c'est ce qui nous met en contact. Vous savez, parfois on parle de la pluie et du beau temps, et après avoir parlé de la pluie et du beau temps, on parle un peu de politique, et donc on parle aussi en général du match de la veille ou du match à venir. Et dans une ville comme Marseille en particulier, mais dans le monde entier, hein, avec plus ou moins d'intensité, on parle du foot. Vous venez de le dire avec Nabil Djellit, là, c'est quelque chose qui fait parler, qu'il y a des gens qui en vivent, des journalistes, des commentateurs, des experts. Et évidemment, il y a tout le monde qui, au comptoir, au bureau, à l'école, parle du match. Alors, t'as vu ci, t'as vu ça, et toi, t'es pour qui, etc. Donc, c'est très, très important d'un point de vue social, d'un point de vue de la sociabilité, le football et la parole.
Donc, un linguiste n'est pas hors jeu sur un terrain de foot. On va passer au tamis chacune de ces expressions que l'on trouve dans votre livre. Mais est-ce que vous avez la réponse à ma question existentielle ? racial que j'évoquais au tout début de l'émission. Une bicyclette est-elle une papinade ?
Ah, mais c'est un vrai débat. En fait, nous, on tranche pas. Parfois, on pose la question parce que, vous savez, le football, il appartient à tout le monde. Il appartient aux joueurs, il appartient aux spécialistes, mais aussi aux puristes, il appartient aux commentateurs, il appartient aux joueurs du dimanche, et chacun a son interprétation. Alors, j'ai commencé à poser la question à Jean-Pierre Papin. J'attends qu'il nous donne une réponse parce que la papinade, est-ce que c'est un geste, un but dans n'importe quelle situation? Est-ce que c'est la fameuse reprise du volet du droit croisé, qui est l'une de ses premières papinades? Est-ce que c'est une bicyclette? Mais la bicyclette, c'est autre chose. Donc, c'est un vrai débat, vous savez, on en a pour une heure. Là.
Mais c'est quoi une bicyclette en foot?
Ouais, c'est le joueur qui se propulse en l'air, mais il est dos au but, en fait. Le principe de la bicyclette, c'est ça. Et puis, il fait un mouvement, en fait, avec ses jambes, comme s'il pédalait. Ce qui est extrêmement difficile, parce que vous imaginez la gravité, la position du corps en l'air, avec une maîtrise pratiquement absente de tous les membres. Et il faut donc balancer les jambes comme ça en ciseau, on appelle ça parfois un ciseau ou ciseau retourné, pour pouvoir attraper la balle. Et c'est l'un des coups les plus aléatoires qui soit, parce que vous pouvez leur rater le ballon, vous pouvez dévisser totalement, vous pouvez tomber, vous faire mal. Enfin, Et c'est pour ça que ça fait partie des buts les plus beaux, parce qu'ils sont une sorte de jaillissement, de fulgurance que seuls les plus grands peuvent maîtriser.
Nabil Djellit, Médéric Gasquet-Cyrus, c'est pas tout à fait le temps de la mi-temps, mais presque. En tout cas, c'est pour nous le temps d'écouter Camélia Jordana, mais aussi d'aller ailleurs, comme chaque semaine, non pas au Qatar, mais en Haïti. Ailleurs, à Port-au-Prince, avec Guy Régis Junior, directeur du festival Quatre Chemins. Bonjour Guy Régis.
Bonjour Pascal.
Malgré la crise politique, sécuritaire, économique que traverse le pays, ce festival débute aujourd'hui même. J'ai envie de dire, coûte que coûte, ça a été plus difficile que les années précédentes.
Ça a été très difficile les années précédentes, mais dans nos activités en amont du festival, des lectures qu'on a tenues sur des textes de la RDC, des lectures de textes de jeunes auteurs haïtiens. On a fait 3 jours un pré-festival en amont où il y avait un public fou. Donc c'est attendu de toute façon le festival.
Du coup, si la situation est si compliquée dans le pays, qu'est-ce que cela suppose pour la programmation ?
Si la situation est difficile, on la connaît, elle est comme ça depuis longtemps. Mais en même temps, il y a tous les enfants qui sont chez eux, qui ne vont pas à l'école. Il y a les universitaires qui sont chez eux, qui ne vont pas à l'école, qui vont être dans le festival. Ça signifie pour nous des difficultés aussi d'ordre politique. On aurait pu dire, bon, nous aussi, on ne fait rien. Mais en fait, tout ne peut pas s'arrêter dans un pays. On a tenu à le faire parce que justement, tous ces jeunes universitaires sont là, sont présents et seront présents pour le festival.
Donc c'est une programmation consistante, 18 spectacles, plus des lectures, plus des conférences, etc. etc. Mais il n'y a pas de tête d'affiche étrangère, hein. C'est un festival qui est plus local et plus resserré sur l'île.
Exactement, la difficulté c'est de persuader des amis qui doivent venir en Haïti. Bon, ça on ne se pose pas de questions, il y en a beaucoup qui veulent venir malgré la situation. C'est plutôt de convaincre leur ambassade qu'ils viennent, donc on a plutôt fait le choix une année encore de travailler avec les artistes locaux, ce qui nous permet aussi de faire travailler beaucoup les artistes d'ici et de voir qu'ils ont bien évolué pendant ces années-là d'isolement d'Haïti, qui eux, ils ont continué à travailler pendant toute l'année. Ils nourrissent des projets de spectacle et c'est ces 18 propositions que l'on fait, plus d'autres activités qui sont extrêmement importantes pour nous, les lectures, les cafés poésie, etc.
Donc des artistes haïtiens et j'ai cru comprendre qu'il y avait une thématique, ou du moins un intérêt pour une question qui est la question climatique et la question de la préservation de la mer. C'est un festival écolo donc ?
C'est un festival plutôt qui chaque année met la lumière sur un problème, sur un questionnement. On met bien sûr à l'honneur un artiste, c'est Rolando Etienne, qui nous présente 5 mises en scène. Et de notre côté, on tient toujours un sujet important. Le littoral haïtien est un des plus beaux de toute la Caraïbe, un des plus grands aussi de la Caraïbe. Mais qu'est-ce qu'on maltraite nos mers ? Il y en a de nos mers qui sont complètement sales parce que les eaux usées sont jetées dedans. Les poissons que l'on mange se nourrissent de ces bords de mer qui puent. Il y a énormément aussi d'abris anarchiques qui sont sur nos littorales. On voulait mettre la lumière sur cette question-là avec des spécialistes, plutôt des urbanistes. Et en Haïti, qu'on se dise aussi, exactement comme les constructions, exactement comme les rues que l'on construit, la mer aussi est un endroit à protéger. Et la mer, ça peut être aussi une source de richesse extraordinaire.
Donc c'est un festival d'émerveillement et de prise de conscience.
Toujours. Toujours, c'est faire un festival en Haïti sans se poser la question au-delà de la beauté, au-delà de l'esthétique artistique et pas se poser des questions sur la réalité, ce serait un festival non conscient, non citoyen. Ça a toujours, Quatre Chemins a toujours été un festival de citoyens.
Merci beaucoup Guy-Régis Junior. Le festival Quatre Chemins se déroule donc jusqu'au 3 décembre et bah, bon festival, courage, tenez et bravo.
Merci, merci Pascal.
De nuit comme de jour, la gorge et les poings se serrent. J'ai le cœur lourd, je ne peux le laisser faire. Mon désir sourd m'empêche de regarder en arrière. Et mes amours maintenant ont un goût amer. J'ai cru savoir m'y prendre. J'ai vu en vain. J'ai su. Pose un genou à terre. Je ne suis pas pour, j'essaie simplement de me taire. Je regarde autour, mes pensées sont en désert. Tu me joues des tours et je vois tout à l'envers. J'ai cru savoir m'y prendre. J'ai vu en vain. J'ai su.
Je suis Camélia Jordana sur RFI et aujourd'hui une émission foot puisque c'est la Coupe du Monde avec Nabil Djellit, journaliste à France Football et Médéric Gasquet, Cyrus, linguiste enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Alors pour ce livre en pleine lucarne, Médéric Gasquet-Cyrus, comment vous avez procédé pour établir le corpus, je parle en universitaire, puisqu'il y a 200 mots et expressions?
Alors, pour écrire en plein dans la lucarne, on est parti d'une base, on va dire, de mots évidents, le corner, le coup franc, le penalty, et puis très vite, la liste a enflé au point qu'on a très vite dépassé les 200, et là, il a fallu se battre, on a joué ça au penalty. Non, c'est pas vrai, on s'est pas battu, mais on a dû discuter, négocier, qu'est-ce qui est le plus intéressant, parce qu'on a un équilibre entre des expressions très basiques, j'allais dire des termes officiels techniques du football, encore une fois, le hors-jeu, touche, etc., et aussi des expressions populaires. Une équipe de coiffeurs, avoir de la profondeur de banc, casser les reins, vous voyez. Donc voilà, on a essayé de trouver un équilibre entre les deux. Nous, les linguistes, on a fait le travail de recherche des mots et d'explication. Et Michel Denisot, lui, il a raconté des anecdotes, des histoires du vécu avec une partie de ces mots. Donc il fallait qu'on soit d'accord, qu'on ait envie de les traiter, que ce soit intéressant pour lui, pour nous. Donc ça a été passionnant. On a de quoi faire le tome 2, je vous le dis déjà.
Alors, ce qui m'a étonné dans votre choix, c'est qu'il y a très peu d'anglicisme, alors que le foot a été inventé en Angleterre, pour aller vite.
Alors, évidemment, on est aux éditions Le Robert et l'intérêt, c'est de montrer justement à la fois la richesse du vocabulaire du football, mais aussi le lien entre le français et l'anglais. Parce qu'effectivement, dans les explications, on cite les sources anglaises, les origines. Alors, il y a des mots en fait qui ne sont pas traduits, c'est-à-dire que le corner, effectivement, le corner, que ce soit le corner à la rémoise ou le corner normal, on garde le mot anglais. Hein, le coup de pied de coin, on l'évoque évidemment, mais il est très peu employé dans le vocabulaire du football. Mais on évoque ces quelques mots-là. pas. Alors le coup du chapeau, le hat-trick, vous voyez, on peut dire les deux, le mot anglais, le mot français. On a le catenaccio, par contre, on a gardé l'italien, là, vous voyez. Donc voilà, on est au carrefour des langues, au cœur de la langue française, puisque c'est paru aux éditions le Robert, mais l'anglais est présent en dessous.
Nabil Djellit, c'est vrai qu'il y a peu d'anglicisme dans le vocabulaire footballistique quotidien ?
Il y en a peu, mais il y en a quand même, mais surtout et de plus en plus d'un point de vue économique, ce qui retranscrit un peu la puissance au fond du football anglais et de la Première Ligue. Par exemple, un mot qui a apparu ces dernières années dans le football, mais qui est un anglicisme, je pense que du côté de Marseille, ça pourrait parler. On parle de panic buy, par exemple. Le panic buy, c'est un mot qui a fait son entrée un peu dans le vocabulaire footballistique, qui veut dire un achat de dernière minute d'un joueur pour pallier un besoin. Par exemple, à Marseille, il y a quelques saisons, ils cherchaient un grand attaquant. Ils ont acheté en dernière minute, sans précaution, un attaquant qui s'appelle Mitroglou, qui a absolument rien fait, qui a été nul sur sa séquence, ou pas très bon, on va dire, entre guillemets, pour pas être trop sévère. Donc, on parle de panic buy, par exemple. Aujourd'hui, ça, c'est un terme qui est rentré dans le vocabulaire du football.
Beaucoup d'images dans le vocabulaire du football. Vous l'évoquez, le langage populaire, mais d'Éric Gasquet-Cyrus, faire l'essuie-glace, frôler la correctionnelle, avoir trois ouais. poumons, un coupeur de citron. On est plus près de chez Audiard ou sans Antonio que de Proust avec des expressions comme ça.
Ouais, exactement. Il y a le coup de casque aussi pour le gros coup de tête, appelé le marabout, le café crème, le cachou. Ouais, effectivement, parce que comme je vous le disais, on commente le foot quand on regarde un match, que ce soit devant la télé avec des amis, en famille, au bistrot ou dans le stade. Ben, on reste pas silencieux comme ça. On dit là, il y a faute, il y a ci, il y a là, vas-y, donne-le ton ballon, envoie, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on développe en fait ce langage, ce vocabulaire. Et ce qui est très intéressant, c'est encore une fois le croisement entre ce vocabulaire populaire, ces expressions savoureuses, le langage technique du football. Là, il y a la VAR, on parle de la VAR, effectivement, qui est maintenant un acteur du jeu. Et puis, il y a aussi les termes, Nabil vient d'en parler, les termes techniques, économiques ou médiatiques. Il y a le mercato aussi, hein, qui est un terme qui n'est pas français à l'origine pour parler de ce marché-là. Et bon, voilà, effectivement, c'est d'une richesse. Il y a plusieurs couches, en fait, de niveau de langue.
Mais est-ce qu'il y a une traçabilité, une origine ou une étymologie de toutes ces expressions? Par exemple, un coupeur de citron, quelle est l'origine de cette expression?
Bon, mais ça, c'est dans plusieurs sports, ça peut exister. C'est-à-dire que les joueurs qui ne jouent pas, qui n'entrent pas, qu'est-ce qu'ils font à la mi-temps des matchs? Alors, c'était à l'époque où il n'y avait pas des préparateurs, tout un staff, etc. Mais ils coupaient des citrons pour qu'à la mi-temps, les joueurs croquent dans un morceau de citron pour se redonner de l'énergie tout de suite. Hein. Donc, voilà, les joueurs qui n'entrent pas, on a gardé cette image. On dit, voilà, ce sont des coupeurs de citron. En gros, ils font rien. Ils vont juste donner de quoi reprendre des forces à leurs collègues. Mais effectivement, on remonte à ses origines. Le corner à la Rémoise, on a l'explication. On a pour les tifosi, vous savez que le mot tifo, qui vient des tifosi, ça veut dire les tifosi sont ceux qui ont le typhus. C'est un mot qui remonte au latin, donc ils sont enragés. C'est pour ça que les tifosi qui font les tifos, ce sont les plus fervents spectateurs.
Et donc, voilà,
on a remonté les étymologies de qu'on le pouvait. Ouais, c'est ça.
Est-ce que, Nabil Djellit, oui. vous utilisez toutes ces expressions, un coupeur de citron, frôler la correctionnelle, etc., etc.
Certaines un peu moins avec le temps, puisqu'il y a aussi un vocabulaire qui évolue avec les générations, aussi un langage qui est parfois issu des quartiers aujourd'hui populaires, mais qui est aussi issu du 2.0, entre guillemets, si je puis me permettre. Donc le vocabulaire du football s'enrichit aussi avec l'évolution de la société. Par exemple, un exemple, aujourd'hui, par exemple, quand il y a un geste technique réussi, oh, il a fait une action YouTube. Ça veut dire que c'est une action qui va tourner en boucle sur YouTube. D'ailleurs, même certains joueurs aujourd'hui évitent d'être pris par une action YouTube. C'est-à-dire, vous avez des défenseurs centraux, par exemple, qui sont lents, qui vont éviter de jouer trop haut, qui vont rester plutôt bas, parce que s'ils jouent trop haut et s'ils sont pris par une action un peu légendaire qui va faire le tour des réseaux sociaux, qui va devenir virale, eh ben c'est leur irréputation et leur réputation qui en prend un coup, par exemple.
Mais qui l'invente, cette expression, une c'est action YouTube? C'est le quartier?
C'est le quartier.
Et alors, comment elle arrive dans votre bouche?
Bah parce que on est connecté au réel, je reste pas dans mon bureau et je regarde, j'attends de voir ce qui se passe, parce que comme l'a dit notre ami, bah le football, toute génération, toute couche sociale, c'est un tronc commun, c'est un échange, c'est comme la météo, tiens il fait beau, bah le football c'est pareil, c'est comme la météo, on en parle tous les jours avec tout le monde.
Mais est-ce que vous inventez des expressions? Est-ce que ça vous est arrivé?
Oui, moi j'invente des expressions avec des noms de joueurs, par exemple. Par exemple, il y avait un international algérien qui jouait à Lorient, qui était extrêmement technique, bon, qui humilie un peu les joueurs, même si le mot est un peu dur. Mais je disais, bah, il s'appelait Rafik Saifi. Je disais, ah, bah, quand il y a un dribble énorme, je dis, ah, bah, il l'a saifisé, par exemple. On peut avoir cette expression-là. Après, il y a des noms, et j'ai vu dans le livre, c'est intéressant. Il y a quand même deux joueurs qui ont laissé leur nom à des gestes techniques. Aujourd'hui, on ne définit plus le geste technique par le geste technique, mais par le nom du joueur qui l'a fait la première fois ou qui l'a laissé pour la postérité. Donc, il y a la fameuse Panenka, que Zinedine Zidane a réussi en finale de la Coupe du Monde 2006. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Pascal. Et puis,
Panenka qui était un joueur. Hein.
Ouais, Panenka qui est un joueur tchèque. Et ce but inscrit, alors je l'ai déjà interviewé à plusieurs reprises, et pour lui, c'est une énorme fierté, la Magyar. C'est-à-dire, Rabah Magyar avait marqué un but du talon en finale de la Ligue des Champions, enfin de la Coupe des Clubs Champions en 1987 avec Porto. Donc, il y a aussi des noms de joueurs qui entrent à la postérité dans le vocabulaire du football par un geste qu'ils ont réussi. Donc, c'est vrai que c'est assez riche.
Et puis, il y a le verbe zlataner.
Oui, voilà.
Zlatan Ibrahimovic, pardon.
C'est les guignols, ça.
C'est les guignols.
Oui, les guignols de l'info.
Qui invente le terme et qui est dans le dictionnaire Le Robert maintenant.
Tout à fait, tout à fait.
Ça s'appelle des antonomases, n'est-ce pas, Médéric?
Exactement, bravo. Bravo.
Alors, des expressions ou la palissade ou des proverbes africains, j'en connais qui n'en rate jamais une, c'est Rémi Ngono.
Oui. Le football a un but, c'est le but.
Qui dit mieux? Le football a un but, c'est un but, hein. c'est parfait. Ngono, il y a bien évidemment les proverbes africains, mais le foot étant international, est-ce que le vocabulaire l'est aussi, Nabil Djellit?
Oui, parce qu'on s'enrichit, on est... Les frontières n'existent plus, hein, enfin entre guillemets, donc on s'enrichit du vocabulaire des autres. Par exemple, je peux vous prendre un exemple en Amérique du Sud, un exemple en Afrique, en Amérique du Sud, je pense à l'expression « joga bonito », bien joué, le beau jeu, les artistes brésiliens. Et ben ça, aujourd'hui, par exemple, quand il y a un match et ça joue bien, ben nous, on est capable de dire « ah, c'est joga bonito », mais ça vient des artistes brésiliens, et puis ça vient aussi... d'une pub au début des années 2000 avec les meilleurs joueurs brésiliens, Ronaldo, Ronaldinho, qui faisaient des gestes techniques. Et la marque, l'équipementier à la virgule célèbre, avait créé cette expression de joga bonito. Ça, c'est par exemple ce que peuvent nous apporter les Sud-Américains. Aussi avec des gestes techniques, on dit l'élastico, c'est-à-dire le flip-flap, c'est-à-dire extérieur-intérieur en mouvement, qui est francisé avec le mot la virgule. Donc, on ponctue aussi nos actions par des mots qui évoluent avec le temps. En Afrique, moi, je pense à une ou deux expressions qui m'ont toujours fait sourire. Quand j'écoutais à l'époque les commentateurs africains nous parler de football, je me souviens d'un match du Sili National de Guinée, je crois, et face à la Côte d'Ivoire. Et il y avait Bonaventure Kalou avec son frère Salomon Kalou. Et nous, ici, par exemple, en Europe, on va dire en règle générale, l'expression qu'on utilise, c'est « passe en retrait », quand il y a une action avec une passe en retrait. Et ben à ce moment-là, moi ça m'avait vachement marqué. Il avait dit rétropasse, et je trouvais ça fantastique. Et je trouvais que le mot il était plus beau. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui parfois utiliser parce que c'est les influences qui viennent aussi. D'ailleurs, moi je suis d'origine algérienne et quand je vais en vacances en Algérie, par exemple, là-bas on dit pas les poteaux.
On dit quoi ?
On dit les bois. On dit les bois parce que dans l'imaginaire, les poteaux sont vus comme des troncs. Voilà, on dit installer les bois par exemple, installer les buts quoi. Donc voilà, c'est ça en fait le vocabulaire, il est culturel et souvent lié à l'imaginaire en fait.
Mais est-ce qu'on dit ballon, puisqu'on parle de football, ballon rond partout ou là aussi il peut y avoir des variantes?
Il peut y avoir des variantes. Au Maghreb parfois on peut dire la peau parce que en fait là, comme le ballon est vu comme une surface textile presque entre guillemets cousue à l'époque avec on voit ça comme une peau entre guillemets comme un cuir, vous savez, comme un c'est presque de la maroquinerie quoi en quelque sorte quoi. Donc voilà, et après il y a des mélanges. Par exemple, je vous donne un exemple. Au Brésil, on dit, les premiers commentateurs brésiliens disaient goal, ce qui a été repris chez nous ici. Mais par exemple, en Afrique ou au Maghreb, parfois quand il y a un but, on dit pas goal, on dit il y est, qui est devenu oulié. Voilà, le type de vocabulaire qu'on peut avoir dans d'autres pays. Alors là, pour le coup, ça reste francophone, puisque c'est une
oui, on ne parle pas de traduction.
Voilà, c'est « ilier », quoi, en fait. C'est pas « but », quoi, on dit « ilier », en un seul mot.
Alors, il y a toutes ces expressions métissées, mélangées, culturelles, mais je trouve aussi qu'il y a parfois une inspiration poétique dans les commentaires de foot. Écoutez Olivier Pron sur RFI.
Ouais, le
but de Bertrand Traoré. Le voilà, le troisième but. Oh, depuis qu'il est rentré sur l'aile droite, il fait la misère à son défenseur. Et là, encore une fois, il l'a mis dans le vent. Il est rentré dans la surface de réparation. Et à 15, une quinzaine de mètres, déporté sur la droite, il enroule sa frappe à terre et elle vient mourir au pied du deuxième poteau. Il est battu, Vlachodimos. Cette fois, la Messédite à la 89e minute.
Il fait la misère, il l'a mis dans le vent ou encore la frappe vient mourir sur le poteau. Médéric Gasquet-Cyrus, vous en dites quoi? Olivier Pron a lu votre livre? Ou vous inspirez de ce
qu'il
raconte?
Non, mais c'est magnifique, c'est ça.
Livre.
C'est-à-dire que là, il y en a 5 ou 6 au mètre carré, je dirais. C'est extraordinaire parce que quand on est fan de ballon, de foot, comme la plupart d'entre nous qui parlons là, effectivement, pour nous, on ne s'en rend même pas compte de ça, c'est évident. Mais imaginez quelqu'un qui n'a absolument pas entendu parler de ça. Vous parlez de feuilles mortes, ça va mourir, mis dans le vent, etc. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, quoi? Donc voilà, des choses à la fois très, très, très poétiques, des choses qui sont basiques, mais qu'il faut expliquer aussi. Mais c'est vrai que dans l'emballement comme ça, cet enchaînement, il est magnifique. Très joli combo. Et je note la rétro-passe de Nabil, on la mettra dans une prochaine édition. C'est magnifique, ça fait Goldorak, un peu rétro-laser, vous savez.
Mais si on veut faire les savants, on peut dire aussi que quand même dans le langage du football, il y a des oxymores. Parce que parlant du ballon rond, avoir des pieds carrés, c'est pas une oxymore ça, monsieur le linguiste?
Ah, le pied carré, c'est une exagération. Hein. On dit souvent aussi que le joueur il a oublié d'enlever la boîte des chaussures. Donc ça, c'est pour dire que il a les pieds tellement carrés qu'il peut pas jouer de toute la surface du pied, qui est justement un petit peu arrondi, où il y a des arêtes, il y a différentes parties de la surface du pied. Après, le ballon rond, effectivement, c'est pour le distinguer du ballon ovale, quand même, parce que le ballon peut être ovale. Donc je pense que c'est pour ça.
En regardant votre livre, en lisant votre livre, j'ai vu qu'il y avait, alors c'est une impression, hein, peut-être que vous allez me dire l'inverse, mais qu'il y a beaucoup d'expressions qui empruntent à la faune. Un taureau, un renard des surfaces, une aile de pigeon, le cou du scorpion ou du crapaud. Pourquoi ce lien avec la nature?
Bon, parce que dans les expressions populaires, vous savez, la fièvre de cheval, un temps de chien, voilà, ça nous montre le côté très populaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle du monde? On prend les référents qui sont autour de nous. Donc, alors, le coup du scorpion, on voyait bien que ça vient plutôt d'Amérique latine que de chez nous, hein, parce que voilà, ou le coup du crapaud. Comme les crapauds, on pourrait en avoir chez nous. Mais effectivement, on prend les référents qui sont les plus proches. Et puis les animaux, ça fait encore partie, heureusement, de notre environnement quotidien.
Nabil Djellit, oui, vous qui écrivez pour France Football, mais qui faites aussi de la radio et de la télévision, est-ce qu'il y a des expressions qui sont plutôt du registre oral et d'autres du registre écrit? Toutes ces expressions-là qu'on a évoquées, est-ce que vous en servez? Est-ce que vous les utilisez dans vos papiers?
Pas tant que ça. De temps en temps, mais avec des guillemets, on va dire. On peut en avoir, par exemple, il lui met la misère, ce qu'on a entendu là. Moi, ça me parle. Je dirais même plus loin, c'est-à-dire dans mon environnement initial, quand je jouais au foot et tout, entre guillemets, on met même du verlan, nous, il lui met la zermie, quoi, directement. Ce qui devient, il lui met la misère. Ça, si je le mets dans un papier, je peux, mais je le mets entre guillemets, parce que faut quand même conserver un certain niveau de langue, entre guillemets. Il y a des expressions qui sont très populaires, mais qui enrichissent in fine. Et souvent, les expressions populaires, elles peuvent aussi vous servir dans les titres.
Finalement, le foot fait partie de la culture orale.
Moi, je le vois comme ça, ouais.
Plus que de la culture écrite.
C'est une émotion pour moi, le football.
Merci beaucoup, Nabil Djellit. On vous retrouve très vite dans Radio Foot. Merci, Médéric Gasquet-Cyrus. Vous signez En plein dans la lucarne, livre écrit avec Michel Denisot et Arnaud Richard, qui est donc publié aux éditions Le Robert. Et si j'ai bien compris, il y aura un deuxième top, peut-être, avant la prochaine Coupe du Monde. Devez-vous à Pascal Paradou, programmation Louise Calédec, David Brocouet à la réalisation. Merci à France Bleu Provence. Émission à réécouter sur RFI.fr.